Vous écoutez On lit pour vous.
La littérature de science-fiction queer. Un texte de Stephanie Mitchell paru le 28 avril 2026 dans BANQ. La science-fiction nous fait voyager dans des mondes futuristes, technologiquement très avancés, des mondes fantastiques ou dystopiques et des univers parallèles. Elle s'est longtemps imposée comme le genre privilégié pour explorer des réalités en marge des normes sociales. La science-fiction queer aborde quant à elle l'identité sexuelle et de genre. La science-fiction nous fait aussi voyager dans le temps et dans l'espace, découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles espèces, des monstres et des robots. C'est une porte ouverte sur des réflexions profondes, des aventures palpitantes et des visions du monde qui bousculent notre réalité. La science-fiction queer nous plonge dans des réalités alternatives où les catégories traditionnelles de genre ne sont plus figées. Les relations ne se limitent plus à l'opposition homme-femme. Des formes inédites de relations, comme celles entre deux espèces, par exemple, redéfinissent les liens affectifs, sexuels et sociaux. Ces récits questionnent les normes et les constructions du genre et de la sexualité en s'émancipant des stéréotypes, du patriarcat et de l'hétéronormativité. Les ouvrages présentés ici cherchent à déconstruire et à réinventer les normes, à imaginer des alternatives et à remettre en question notre perception du monde. D'où vient la science-fiction queer? Le premier texte qui peut être qualifié de science-fiction queer est « Histoire vraie » de Lucien de Samosat, IIe siècle. Il raconte des aventures comme un voyage sur la Lune, des rencontres avec des créatures fantastiques, des guerres interplanétaires et les périples de peuples étranges. C'est en fait une parodie des récits de voyage. Histoire vraie imagine un monde lunaire où les hommes se marient entre eux. Ce sont également les hommes qui sont enceints et c'est dans le mollet qu'ils portent les enfants. Au Moyen Âge et à la Renaissance, certains récits racontent des terres habitées par des êtres intersexués ou des peuples de femmes guerrières. Avec l'émergence de la littérature gothique au 18e et 19e siècle, la science-fiction queer se développe. On voit émerger des vampires homosexuels et lesbiennes. Vathek de Beckford et Le vampire de Polidori sont deux ouvrages représentatifs de cette époque. Du 20e siècle à aujourd'hui. Au début du 20e siècle, Charlotte Perkins Gilman publie Herland, qui raconte la découverte d'un pays entièrement peuplé de femmes, vivant en harmonie. Néanmoins, les personnages homosexuels et lesbiens sont relégués au second plan. La question de l'identité de genre commence à poindre dans quelques ouvrages comme Orlando, de Virginia Woolf, dans lequel le personnage principal vit pendant plusieurs siècles. C'est à partir des années 1960 que la science-fiction queer prend véritablement son envol. Des auteurs utilisent le pouvoir de la fiction spéculative pour défier l'institution littéraire à prédominance masculine, y compris la science-fiction traditionnelle très centrée sur l'homme. Joanna Russ écrit « L'humanité femme », aussi paru sous le titre « L'autre moitié de l'homme », qui dépeint une humanité entièrement féminine, et le recueil de nouvelles des gens extraordinaires ayant pour thème la diversité sexuelle. Dans « Une femme au bord du temps », Marge Piercy imagine un monde où la distinction entre les hommes et les femmes est désuète et où tous les êtres humains sont bisexuels. Octavia E. Butler, une figure fondatrice de l'afrofuturisme, exprime une vision inclusive et fluide des identités en refusant les normes fixes, fondées sur le changement et la diversité dans la série Parabole. Certaines de ses œuvres ont été adaptées en roman graphique. Dans Ammonite, en anglais, Nicholas Griffith nous emmène sur une planète où seules les femmes ont survécu à un virus mortel. Une chercheuse crée un vaccin et découvre des vérités qui redéfinissent le genre et l'identité. Parmi les œuvres plus récentes, nous suggérons Les chroniques du Ratch, d'Anne Leckie. Gédéon la neuvième, premier tome de la série Le tombeau scellé. Une autre lumière, d'Elizabeth A. Lynn, qui a aussi publié Les chroniques de Tornor. La séquence Hartmann, de Sol Pandelakis. Light from Uncommon Stars, de Rika Aoki. Au Québec, on peut penser à Le silence de la cité et Entre nos mains, d'Elisabeth von Arburg. Valide et Vandale, de Chris Bergeron. La saga d'Ilige, de Sylvie Bérard. La mue de l'hermaphrodite, de Caroline Georges. La science-fiction queer ne cherche pas la vérité. Elle remet en question une certaine réalité et réinvente des existences marginalisées. C'était La littérature de science-fiction queer, un texte de Stephanie Mitchell paru le 28 avril 2026 dans BANQ.
Le patrimoine, sa sauvegarde réelle ou sa restauration hypothétique. Un texte d'opinion de Dinou Boumbavrou, membre d'Héritage Montréal, paru le 19 août 2026 dans Le Devoir. Le 13 août 2026, Le Devoir nous informait de la démolition prochaine de la maison Abraham Dubois à Boisbriand, pourtant citée et protégée par la municipalité en vertu de la loi québécoise sur le patrimoine culturel et de son remplacement par un aménagement évocateur aux allures fantomatiques. Cette information s'ajoute à l'alerte sur le château Johann Beetz, bâtiment classé en 1979, ou encore à la convocation le 19 août 2026 à Sainte-Anne-de-Mellevue d'une assemblée sur le projet de démolition de la maison Robillard, une propriété publique protégée par la ville en vertu de la loi, et à une liste de situations préoccupantes quant à la fiabilité des statuts de protection. Le cas du château Johann Beetz rappelle que le gouvernement du Québec, tout comme le propriétaire, a des responsabilités concrètes de maintien du bâtiment en bon état et donc de collaborer. La déchéance récente du classement du château Beauce, aussi rapporté par Le Devoir et justifié par une absence d'usage pour le bâtiment, laisse cependant perplexe alors que le gouvernement s'était manifestement départi de son obligation relative aux usages des bâtiments classés lors de la refonte de la loi en 2011. À Boisbriand, comme à Sainte-Anne-de-Bellevue, ce sont des protections municipales qui sont remises en question. À Montréal, on a vu le couvent Saint-Isidore et le théâtre Séville, tous deux protégés par la ville en 1990, être démolis. Le premier en 1996 et le deuxième en 2010 pour des projets de développement. Jadis rares, de tels contournements semblent se multiplier, justifiés par la dégradation des bâtiments accentué par l'inoccupation et le vandalisme ou par les questions de sécurité publique et de coûts. Cette tendance est préoccupante et ce, d'autant plus que le Québec et ses municipalités, notamment la région métropolitaine, ont investi des efforts considérables pour répertorier le bâti patrimonial pré-1940 et que s'annoncent de grands défis, en particulier en matière de remise en état et de requalification pour valoriser ce capital culturel longtemps négligé. Coût. Les administrations de Boisbriand et de Sainte-Anne-de-Bellevue invoquent toutes deux l'état de dégradation des bâtiments protégés, mais aussi les coûts prohibitifs de projets de restauration conçus selon les règles de l'art. Restaurer est certes une intention louable, mais en 2026, il est temps de revoir de tels objectifs hérités de projets comme ceux de la Place Royale à Québec ou ceux réalisés par Parc Canada. Notre patrimoine bâti a besoin d'attention régulière et d'interventions éclairées, fondées sur l'expertise et appuyées par une fiscalité incitative et par des normes adaptées. Sans le dénaturer, il faut assurer sa continuité et sa contribution à l'identité et à la vie collective. Paradoxalement, lui imposer une obligation de restauration, voire de retour à un hypothétique état d'origine, concevable dans quelques rares cas de bâtiments artefacts, se révèle de plus en plus une menace, surtout dans le contexte actuel de raréfaction des savoir-faire et d'inflation. Tant à Boisbriand qu'à Sainte-Anne-de-Bellevue, il faut suspendre les démarches en vue de la démolition de ces maisons que les municipalités ont elles-mêmes décidé de protéger. Et il faut revoir les propositions pour que ces bâtiments ou leurs sites, dans une démarche plus économe de réparation et de requalification selon leur état réel. Mieux vaut faire un bel ouvrage avec ce qu'on a que de promettre une intervention dont l'impossibilité se traduirait en justificatif pour la démolition. La Maison Picard dans l'est de Montréal, adaptée il y a 40 ans pour en faire un CPE, est un de nombreux exemples dont on pourrait s'inspirer. En l'absence d'une politique du patrimoine au Québec, une réflexion s'impose sur la loi et ses statuts pour se concentrer sur l'état et l'avenir des bâtiments et des ensembles patrimoniaux, ne serait-ce que pour dissiper la confusion qui s'installe. Cela appelle à une grande collaboration entre pouvoirs publics, propriétaires, professionnels et organismes. La loi doit prévenir la démolition, mais aussi permettre, sans les dénaturer, d'améliorer ces bâtiments, y compris en soutenant et en accompagnant adéquatement les propriétaires, privés comme publics ou communautaires, dans leur rôle d'intendance et d'occupants. Car le bon usage, y compris transitoire ou exploratoire, est un gage de sauvegarde bien meilleur pour nos bâtiments et ensembles patrimoniaux. C'était « Le patrimoine, sa sauvegarde réelle ou sa restauration hypothétique », un texte d'opinion de Dinou Boumbarou, membre d'Héritage Montréal, paru le 19 août 2026 dans Le Devoir.
Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 23 août. En 1939, première hollywoodienne du Magicien d'Oz. Le film musical Le Magicien d'Oz, avec Judy Garland dans le rôle de Dorothy, est présenté en avant-première à Hollywood. Le film deviendra l'une des œuvres les plus emblématiques et les plus diffusées de l'histoire du cinéma. Ses effets spéciaux novateurs et sa chanson « Over the Rainbow » marqueront durablement la culture populaire. Il continue d'être visionné et apprécié par des générations de spectateurs à travers le monde. C'était « Éphéméride, un regard sur l'histoire ». C'est arrivé un 23 août.
Synagogue de Saskatoon vandalisée en pleine prière, un texte de Pierre-Olivier Nadeau avec les informations de Maëvé Ellis, paru le 4 août 2026 sur le site de Radio-Canada. Alors que les fidèles de la congrégation Agudas Israël priaient samedi matin, leur synagogue de Saskatoon a été la cible d'actes de vandalisme. Des individus ont jeté des œufs sur l'édifice ainsi que sur des véhicules garés dans le stationnement. Le rabbin de la congrégation depuis 2012, Claudio Jodorkowski, était sur place au moment des faits. Troublé par les événements, il raconte qu'il a immédiatement contacté la police de Saskatoon après avoir constaté les dégâts. Citation: Ça ne s'est pas passé en soirée. C'était le matin et il y avait des gens à l'intérieur de l'édifice. » Fin de citation, indique-t-il, ajoutant n'avoir jamais été témoin de tel geste depuis 2012. Citation. « Nous nous sentons vraiment, bien sûr, violés et très vulnérables. » Fin de citation, a-t-il ajouté. Le rabbin se demande désormais si de nouvelles mesures de sécurité devront être mises en place. Citation. « Nous devons faire preuve de prudence, mais nous devons avoir confiance dans le fait que Saskatoon est un endroit sûr pour la communauté juive. » Fin de citation, estime-t-il. M. Jodorkovsky rappelle toutefois que la communauté reste unie et forte. Citation. « Nous allons nettoyer les murs et les fenêtres de notre édifice, mais surtout, nous allons continuer à remplir notre espace sacré de prières, d'apprentissage, d'amitié et d'espoir. » Fin de citation. Il demande désormais aux politiciens, citation, « de faire entendre leur voix, de condamner sans équivoque cet acte de haine et d'exiger des mesures concrètes pour protéger notre communauté juive. » Fin de citation. La police de Saskatoon indique qu'elle n'a pas ouvert d'enquête pour le moment, mais qu'elle contactera l'établissement pour faciliter le processus. Hausse de la violence envers la communauté juive. Richard Robertson, directeur de la recherche chez B'nai B'rith Canada, une organisation de défense des droits des Juifs, souligne qu'il existe une tendance à la hausse des attaques visant les synagogues partout au pays. Citation. Nous constatons que les synagogues, ces lieux de culte juifs, sont facilement prises pour cible. C'est tout à fait inacceptable au Canada en 2026, dénonce M. Robertson. Aucun groupe religieux ne devrait se sentir en danger lorsqu'il se rend dans un lieu de culte. C'est exactement ce qui s'est produit cette fin de semaine à Saskatoon. Fin de citation. Selon Statistique Canada, la communauté juive a été la cible de 70 % des crimes haineux visant des groupes religieux déclarés par la police en 2024. C'était une synagogue de Saskatoon vandalisée en pleine prière, un texte de Pierre-Olivier Nadeau avec les informations de Maëvé Ellis, paru le 4 août 2026 sur le site de Radio-Canada.
Pourquoi faut-il boire de l'eau? Un texte de la rédaction paru le 26 septembre 2024 dans Québec Science. Il faut boire entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour, un peu plus si l'on fait du sport ou s'il fait très chaud. Mais pourquoi est-il si important de s'hydrater suffisamment? Quel est donc le rôle de l'eau dans notre corps? On ne peut survivre plus de 3 jours sans boire. Sans aller jusqu'à cet extrême, on sait qu'il est important de s'hydrater suffisamment chaque jour. Mais pourquoi? L'eau est partout dans notre corps. Elle représente plus de la moitié du poids d'un adulte et elle représente jusqu'à 75 % du poids du cerveau. Cette eau, on la trouve autant à l'intérieur de nos cellules qu'à l'extérieur. L'eau est nécessaire à leur bon fonctionnement et, par extension, au bon fonctionnement de tous nos organes, cerveau, reins, poumons, muscles, estomac, intestin, etc. Il y a un autre endroit où elle abonde, dans notre sang. Le sang est composé de cellules sanguines, globules rouges, globules blancs, entre autres, et de plasma, qui est le liquide permettant de les transporter. Or, ce plasma est composé à 90 % d'eau. Le rôle de notre sang est de véhiculer l'oxygène, les nutriments, les minéraux et les vitamines à toutes les parties de notre corps. Boire de l'eau suffisamment permet de maintenir le volume de sang dans notre corps. En cas de manque d'eau, la circulation ralentit et l'ensemble du fonctionnement de nos organes est altéré. Le problème, c'est que le corps élimine en continu cette eau, par l'urine, les selles et la transpiration. Lorsque les cellules travaillent, elles produisent des déchets azotés, tels que l'urée, qui se retrouvent dans le sang. Ces déchets sont toxiques à forte concentration et doivent être retirés du sang avant qu'ils ne s'accumulent trop. C'est le rôle des reins. Il filtre le sang et élimine tous les déchets, dont l'urée, en produisant l'urine. Une partie de l'eau part aussi dans l'urine afin de diluer les déchets azotés toxiques jusqu'à leur élimination totale hors du corps. Il faut donc compenser ces pertes d'eau en buvant et en mangeant. Boire un verre d'eau, c'est accomplir bien plus qu'un geste anodin. On hydrate chacune de nos cellules et entretient la mécanique complexe de notre corps. C'était « Pourquoi faut-il boire de l'eau ?» un texte de la rédaction paru le 26 septembre 2024 dans Québec Science.
Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 24 août. En 1949, entrée en vigueur de l'OTAN. Le traité de l'Atlantique Nord, signé quelques mois plus tôt à Washington, entre officiellement en vigueur, créant l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Cette alliance militaire regroupe initialement 12 pays d'Amérique du Nord et d'Europe autour d'un principe de défense collective. Elle deviendra un pilier central de la sécurité occidentale pendant toute la guerre froide. L'organisation continue aujourd'hui de jouer un rôle majeur dans les relations internationales. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 24 août.
Est-il encore rentable d'acheter un plex pour le louer? Un texte d'Alex Fontaine paru le 22 juillet 2026 dans Le Devoir. Les propriétaires de petits immeubles locatifs comptent souvent sur les loyers pour payer leurs prêts hypothécaires. Or, quand les taux d'intérêt augmentent, tout leur montage financier peut s'écrouler. Alors, encore rentable le plex? Bertrand Gima a fait l'achat d'un bâtiment de 6 appartements dans le Vieux-Rosemont avec 3 amis en 2020. L'idée était simple, louer les logements et utiliser les revenus des loyers pour payer le prêt hypothécaire et l'entretien du bâtiment. Le profit viendrait plus tard, au moment de la vente. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. L'immeuble de 800 000 $ a été acheté au moyen d'un prêt hypothécaire au taux de 2,8% amorti sur 25 ans. Les paiements mensuels étaient d'environ 3 700. On avait pris un financement hypothécaire sur 5 ans et au bout de 5 ans, la réalité avait beaucoup changé, raconte Bertrand Gima. Maintenant, on a un taux qui est à 4,35%. Résultat, les paiements mensuels ont bondi à 4 400. Aujourd'hui, on est à perte par rapport à notre investissement, alors que quand on l'avait acheté, à la base, on avait un modèle financier qui tenait la route, explique-t-il. Nos loyers ne couvrent plus l'hypothèque. Plus de la moitié des prêts hypothécaires en vigueur au pays devraient être renouvelés en 2025 ou en 2026. Or, le coût du financement a augmenté dans les dernières années et les taux sous les 3% sont chose du passé. Plusieurs propriétaires pourraient donc se retrouver à court de liquidités. Pas de hausse de loyer. Il y a des conséquences bien concrètes à la hausse des taux. Avant, vu qu'on avait un petit peu plus de marge de manœuvre, on pouvait proposer des améliorations, on pouvait faire des petits travaux dans les logements, relève M. Gima. Cette marge de manœuvre n'existe plus. Par exemple, il y avait des travaux qu'on avait prévu de faire, mais on ne peut plus les faire parce qu'on n'a plus les liquidités qu'on avait prévues. Cela risque de nuire au bon état du parc immobilier, selon lui. Il n'est pas question d'augmenter les loyers pour remédier à la hausse du coût d'emprunt, assure M. Gima. Le tribunal administratif du logement ne prend d'ailleurs pas en compte le coût du financement dans son calcul d'augmentation des loyers. Ce n'est pas une bonne solution de transférer cette augmentation des coûts sur le locataire, ce n'est pas du tout dans nos valeurs.
Ce faisant, le problème reste entier et son investissement risque de lui coûter bien plus cher que prévu. Un risque inhérent à l'immobilier. Le cas de M. Gima est une bonne illustration des risques d'investir en immobilier, explique Yvon Rudolph, professeur à l'Université du Québec à Montréal et chercheur à la chaire La Caisse en immobilier. Présentement, le marché est dans une pure spéculation, selon lui. En ce moment, le prix des immeubles, le montant des loyers et les taux d'intérêt font notamment en sorte de miner la rentabilité des investissements immobiliers. On voit que l'investisseur perd de l'argent dès le départ, observe M. Rudolph. Puisque les achats immobiliers sont largement financés à crédit, ils sont très sensibles aux taux d'intérêt. Ce faisant, on rentre dans la spéculation, c'est-à-dire qu'on estime qu'on va revendre et créer notre profit sur le produit de la revente, poursuit-il. Les acheteurs espèrent ainsi éponger leurs pertes courantes en vendant à profit quand ils se départent de leurs biens. Une leçon à retenir. Les plex sont des produits très risqués, note l'expert. Les propriétaires occupants, qui vivent souvent dans des plex de 2 à 5 logements, ont certains avantages fiscaux, mais ne sont plus à l'abri des problèmes de liquidité pour autant. À son avis, plusieurs investisseurs évaluent mal les risques qui sont associés à l'immobilier, et si un propriétaire se retrouve pris à la gorge, c'est qu'il a payé trop cher compte tenu de ses risques, tout simplement. De moins en moins rentable. Acheter un immeuble locatif n'est plus rentable, comme ce l'était auparavant, constate Marc Lefrançois, courtier immobilier chez Royal Lepage Tendance. Les prix ont gonflé trop vite. Il y a quelques décennies, le prix de vente d'un plex représentait 12, 13 ou 14 fois les revenus, rappelle-t-il. On pouvait même envisager d'acheter un plex en se disant qu'il allait se payer tout seul. Aujourd'hui, il voit des produits vendus à 18 ou 20 fois les revenus, voire plus. Le modèle d'antan où l'investissement se finançait à même les revenus semble révolu. Plusieurs immeubles sont aussi vendus avec énormément de travaux à faire. Un prix intéressant pourrait ainsi cacher des frais importants à venir. Il peut y avoir de belles occasions. Mais c'est assez rare, pense le courtier. Monsieur Lefrançois dit observer beaucoup de situations comme celle de Bertrand Gima, où des investisseurs voient leur modèle d'affaires être mis à mal par la hausse des taux d'intérêt. Et si des travaux s'avéraient nécessaires, ce qui est souvent le cas pour des plexes centenaires, là, ça ne marche plus. C'était « Est-il encore rentable d'acheter un plex pour le louer ?» un texte d'Alex Fontaine paru le 22 juillet 2026 dans Le Devoir.